Dès le début de cette lettre, on a vu, elle était riche notamment autour de ce sujet principal qui couvre toute cette lettre, la pleine suffisance de Christ. Christ est suffisant. Et déjà dès les premières lignes, Paul avait rappelé et a exprimé sa reconnaissance pour cette église, hein, pour ce que Christ avait fait dans cette église, dans la vie de ses chrétiens. Et Paul, après, il a prié pour eux. Il leur a dit, il a prié Dieu pour que Christ continue cette œuvre qu'il avait commencée. Il y avait quelque chose encore à vivre pour mieux le connaître, pour mieux le servir, pour mieux vivre avec Christ, pour qu'il grandisse dans la connaissance de Dieu. Dimanche dernier, avec Mathieu, on a vu comme un poème, comme un hymne, hein, verset 15, à l'œuvre et à la position de Christ. On avait vu que l'image parfaite, le premier-né, celui par lui tout a été créé, trône, domination, etc. Ce fils qui s'était abaissé, hein, en fait, il a versé son sang sur la croix, dans son corps, pour réconcilier des pécheurs comme vous et moi. Un message puissant, dont Paul, il avait terminé au verset 23, un message dont Paul était devenu le serviteur. Littéralement, le diakonos, le diacre. Il se sent serviteur de Christ, de celui qui était venu, de ce sauveur merveilleux. Et ce matin, dans la suite du passage, vous le voyez derrière moi, la section qu'on va voir ce matin, on va faire un zoom sur Paul lui-même, sur son ministère, sur justement son état d'esprit de serviteur. Et là, on va voir que Paul va devenir profondément personnel autour de son propre engagement. Il va ouvrir un peu son cœur. Il va parler de sa mission, de sa vie, de son combat quotidien. Et on va voir aussi que même là, absolument tout tourne autour de Christ. Quand je l'évoquais, la suffisance de Christ, ça va baigner ce petit passage. Alors je vous propose de le lire avec moi. On est au verset 24, au verset 29. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà comment Paul envisage son ministère. Ce passage, il est dense, hein, je sais pas, en première lecture comme ça. Ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, de prime abord. Mais Paul nous présente en quelque sorte, et c'est le titre que j'ai donné à ce matin, le portrait d'un serviteur authentique de Christ. C'est un texte où nous, pasteurs, anciens responsables d'église, responsables d'enfants, devraient pouvoir s'identifier à ce que Paul présente, de la manière dont il vit son ministère. En fait, Paul nous décrit en fait en quoi ressemble l'engagement d'une personne au service de Christ, au service de son Église. Et c'est vrai que on peut se dire à la lecture d'un tel texte, il est gentil Paul. Moi je suis pas pasteur, moi je suis pas responsable d'Église. Qu'est-ce que je vais retirer de ce texte ? Mais je crois que ce texte aussi pour nous, au moins pour quatre raisons, je vous propose déjà de les donner dès à présent. Premièrement, ça va nous aider à chacun à voir comment le responsable de l'Église doit être appelé à être. Est-ce que nos responsables seront une bonne voie ? Est-ce qu'ils vivent selon les critères de l'Écriture ? Et ça va donner aussi des pistes de comment on va prier pour eux. Je vous rappelle, dès le début de la lettre, Paul, il avait dit, Il nous encourageait à prier les uns pour les autres, pour qu'on grandisse dans notre découverte de Christ. Il est bon de prier les uns pour les autres. C'est une première application. De voir, de discerner nos responsables. Mais deuxième élément, je l'évoque régulièrement, on est tous serviteurs. On est tous des diakonos. Tout ce que Paul décrit ici, bien sûr, on doit les attendre d'autant plus des responsables. Mais c'est ce que Dieu attend de chacun des hommes et des femmes engagés à la suite de Christ. Un chrétien non engagé, non pratiquant, c'est pas comme ça que la parole de Dieu nous le présente. Donc en regardant ce texte, on doit imaginer aussi, nous rappeler ce que Dieu attend peut-être de chacun de nous en tant que chrétien. Troisième élément, on le voit, cette lettre et ce passage aussi, Paul vise la progression, vise notre croissance, vise notre édification, vise à ce que cela nous nourrisse. Notre marche, elle est dynamique avec Dieu. Il attend à ce que Dieu façonne nos vies. Et dans ce texte, Paul, il le redit, il vise que toute personne puisse grandir parfaitement dans sa découverte de la personne de Jésus-Christ. Et enfin, quatrième élément, tout tourne autour de Christ, et donc ça devrait nourrir notre émerveillement de cette personne de Dieu. Je propose de voir ce texte et de voir les qualités de ce serviteur authentique sous quatre éléments que j'ai relevés dans ce texte. Mais j'aimerais simplement prier avant de commencer. Seigneur, merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui. Merci parce que tu as inspiré Paul qui a écrit à cette église, qui a parlé de sa vie, qui a parlé de ses fardeaux, qui a parlé de ses préoccupations. Je prie que nous, aujourd'hui, en 2026, ici à Wittenheim, nous puissions être nourris par cette parole de vie, par qu'elle puisse nous rejoindre, nous encourager, nous interpeller, nous accompagner. Et je prie que par ton esprit, tu inspires mes paroles aussi pour chacun d'entre nous, et que par ton esprit, tu agisses dans nos cœurs à chacun. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons demandé ces choses. Amen. Alors, premier élément que j'ai relevé, vous l'avez peut-être relevez aussi, le serviteur souffre pour Christ. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Voilà comment il commence. La première chose qu'on entend de l'apôtre Paul dans son service pour Dieu, c'est que la souffrance fait partie intégrante de son ministère. Paul ouvre son cœur. Paul ouvre ses émotions. Lorsque Christ habite en nous, ça se voit sur la joie, bien évidemment, mais aussi par les souffrances qu'on endure pour le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la réalité que Paul nous présente ici. Alors on sait que Paul, quand il rédige cette lettre, qui est extraordinaire d'ailleurs, comme la lettre aux Philippiens, il est en prison. Pourtant, il nous écrit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances ». C'est un contraste un peu surprenant. Se réjouir des souffrances. On a régulièrement des pastorales, où les pasteurs se retrouvent, autour d'une table notamment. Et souvent, on le réalise, on partage combien c'est dur, notre responsabilité. Le ministère est difficile, les gens sont exigeants, nos églises, on ne sait pas toujours comment les conduire, les accompagner. On a la critique, on a le découragement. Et c'est vrai. Mais Paul dit « Je me réjouis ». Pour les souffrances, pour vous. Quelque chose de bizarre. Alors on n'est pas dans une attitude malsaine où on veut glorifier la souffrance comme une sorte de plaisir, rien à voir. Lorsque Paul avait la possibilité de fuir la persécution et les moments difficiles, il l'a fait. On se rappelle cet épisode où il a fui une ville où on voulait le mettre à mort. Il a fui dans une corbeille. Pour échapper à la mort, il a fui. Il n'allait pas se mettre dans des situations de danger, pour le plaisir de se mettre en danger. Non, Paul nous dit qu'un serviteur, c'est pas l'absence de souffrance, mais c'est la manière dont on est appelé à la regarder. Et la clé qu'il nous donne, c'est la confiance qu'il avait en Dieu. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, parce que notre texte commence « Je me réjouis maintenant ». Donc il vient de nous dire tout ce qu'il avait en Christ, tout ce qui était, enfin l'hymne qu'on avait vu la semaine dernière avec Matthieu, Et c'est cette confiance absolue que Dieu dirige les circonstances, même si elles sont difficiles, c'est Dieu qui est au contrôle. Et je m'en réjouis. C'est le maintenant. Et c'est pour vous que je le fais. Si Paul se réjouit, c'est que ses souffrances produisent un fruit et servent les autres, servent l'Église. On le sait, Paul avait sa vie tournée vers les autres. La question n'était plus moi, mais qu'est-ce que ça coûte à moi, mais qu'est-ce que ça fait dans la vie des autres? Qu'est-ce que ça produit comme bien dans la vie des uns et des autres d'être au service du Seigneur et pour l'avancement de l'Évangile? Et c'est cette même attitude que nous sommes appelés à avoir. Non pas à regarder ce que je vais perdre, mais à ce qu'on peut donner, à ce que cela va produire, à ce que cela va contribuer pour le service de l'Évangile, pour le bien des autres. Je sers Christ et je suis appelé à renoncer à moi-même. Pensez peut-être simplement aux personnes qui vous ont aidé à découvrir et à grandir dans la découverte de Dieu. C'est peut-être un responsable dans un camp de jeunes. C'est peut-être un pasteur, un enseignant, quelqu'un dans l'église. Quelqu'un qui a pris le temps de vous écouter, de vous encourager, de vous remettre sur la bonne voie. Et pour toutes ces personnes, il y a eu à un moment donné une part de sacrifice, du temps mis à part. Peut-être ils ont cravaché des heures pour préparer le petit enseignement qu'ils ont donné au temps spirituel des flambeaux, par exemple. Il y a eu des soirées renoncées. Il y a peut-être eu des blessures parce que parfois il a été nécessaire de dire des choses, de faire des choix. Mais ces sacrifices ont été valables, ont eu la peine parce qu'elles ont servi à ce que la vie de l'autre a été touchée. Suivre Christ, être un serviteur de Christ, il y a nécessairement quelque part une part de souffrance qui va nous impacter. Et j'aime beaucoup l'ordre de ce texte parce que avant de parler du message, avant de parler de son ministère, il évoque ce combat. Il évoque cette souffrance avec cette joie. Pourquoi cet ordre? Parce qu'il, moi je crois qu'un serviteur de Jésus, c'est, on sert un maître qui a souffert, qui est passé par la croix. Ce sauveur qu'on annonce, dont on nous dit dans Ésaïe 53, hein, il a été méprisé, abandonné de tout homme, homme de douleur. Voilà la personne qu'on suit. D'ailleurs, quand Paul il parle du travail de son équipe, en équipe, hein, en 2 Corinthiens par exemple, on est pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité. Dans la détresse, mais dans le désespoir. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, mais non perdu. Il réalise, oui, il y a des difficultés. Et dans 2 Timothée, quand il encourage son jeune frère, il dit « C'est pourquoi je supporte tout à cause, écoutez bien, je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Quelle attitude! Paul est prêt à souffrir pour des personnes pas encore chrétiens, parce qu'il est prêt à se donner pour un message qui vaut la peine, pour qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus. Quelque part, son attitude, si je dois aller en prison pour que des personnes entendent, je vais en prison. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est Paul qui le dit. Paul avec cette conscience aiguë du service pour Dieu et de cette joie qui l'accompagne par-dessus les circonstances parce que c'est Dieu qui est glorifié. Si on étend un peu la perspective, je me dis que dans chacune de nos vies, il y a toujours une difficulté, une faiblesse, une souffrance, une tentation qui revient comme un boomerang. C'est peut-être une maladie. On a peut-être des blessures relationnelles, on a une lutte. Et si on y prend garde, ces blessures peuvent devenir obsessionnelles. Elles vont nous emporter notre joie parce qu'elles vont toujours être visibles. Mais Paul, devant cette souffrance, sait mettre le bon filtre. Il se rappelle que Dieu règne, qu'il contrôle tout et qu'il est au service de son maître. On le sait, hein, on a un passage qui dit que Paul, il avait une écharde, il avait une situation difficile qui le pesait. On ne connaît pas les détails, on ne sait pas si c'était une maladie, s'il avait une mauvaise réputation, est-ce que c'était la persécution, enfin pas la persécution, oui, de l'Église en général, est-ce que c'est les soucis que lui donnait l'Église de Corinthe, par exemple, est-ce qu'il avait une faiblesse morale qui le menaçait? Dieu seul sait cette réponse, et je trouve que c'est chouette parce que on ne connaît pas les détails, on peut s'identifier quelque part à cela. Et Paul, il dit, 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de m'enlever cette écharde. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et du coup, Paul a ajouté, je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ. Dans Romains, il va écrire, je me glorifie même des détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire éprouvée, et la victoire éprouvée, l'espérance. La souffrance n'est pas une fin en soi, mais c'est un chemin par lequel Dieu nous forme, Dieu nous accompagne, et Dieu souhaite nous voir parfois engagés. Deuxième élément dans cet élément que le serviteur souffre pour Christ, il y a une partie du verset qui fait partie le verset peut-être le plus compliqué. Je supplée un verset dans ma chair, ce qui manque aux afflictions de Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. La version française courant dit ainsi, « Maintenant je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne je complète ainsi ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps, qui est l'Église. » C'est un des versets les plus compliqués, je disais. Il y a souvent des mauvaises interprétations. Mais ce verset ne veut pas dire que la croix était insuffisante, que ce que Christ a vécu là était insuffisant. Verset 22 de dimanche dernier, « Il nous a réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. » C'est parfait, complet, rien à rajouter. Non, mais Paul est en train de parler qu'il y a une union entre Christ et l'Église, et son corps. Quand le corps souffre, la tête souffre aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la conversion justement de l'apôtre Paul dans Actes 9. Paul, avant de rencontrer le Seigneur, persécutait l'Église. Et Dieu l'arrête et lui dit « Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul n'était pas en train de frapper Jésus physiquement. Mais en attaquant son Église, Saul frappait Christ lui-même. C'est un peu la même réalité. Le corps de Christ souffre. On fait partie de ce corps de Christ souffre. Ben, Christ souffre. Le fait d'être chrétien dans un monde qui rejette Dieu, nous souffrons. On est parfois des familles déchirées parce que l'un ou l'autre reconnaît Christ et pas les autres. On a peut-être des frustrations dans notre ministère ou dans nos engagements. On est peut-être rejeté au travail à cause de notre foi et de notre attachement à Christ. On fait partie de ce corps et Christ souffre. Prenez cette image du maçon, peut-être pour vous aider. Ce maçon qui construit sa maison. Toute la journée, il va ressentir dans ses muscles cet effort qu'il va faire à construire cette maison. Chaque coup de marteau, chaque effort va se traduire dans la réalité de son corps. Jésus-Christ bâtit son Église, son corps vivant, et son corps souffre parce que c'est pas toujours facile, et il l'a dit, il l'a annoncé. Mais quelque part, on participe à ce que Christ est en train de souffrir aussi. Nous aussi, nous avons nos luttes, nos doutes, nos moments de découragement, nos combats. Toutes les fois, on supporte une épreuve liée à notre foi. C'est une souffrance, mais une souffrance qui fait partie, on pourrait dire, du jeu, d'être un disciple du Seigneur. Et je dois reconnaître que parfois, enfin souvent, je me dis, je veux bien te suivre, je veux bien servir le Seigneur, à condition que ça ne me coûte pas trop. Oui, Seigneur, je suis prêt à te servir tant que je peux garder telle ou telle chose. Oui, je suis prêt à te servir tant que je n'ai pas à faire telle ou telle chose ou à parler à telle ou telle personne. Oui, je suis prêt à te servir tant que ça ne coûte pas ma réputation. Oui, je suis prêt à te servir tant que je reste maître de mon agenda, de mes priorités et de mon temps libre. Mais pour Paul, être au service du Seigneur Jésus-Christ, c'est pas juste choisir quelques options, c'est tout. C'est l'Évangile dans sa totalité. Souffrir pour Christ. Deuxième élément qu'on voit, le serviteur sert le corps de Christ. Verset 25, « C'est d'elle, l'Église, que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous annoncer pleinement la parole de Dieu. » Deuxième marque d'un véritable serviteur de Christ, c'est qu'il est au service du corps de Christ, il est au service de l'Église. Autrement dit, l'Église n'est pas un accessoire dans la vie du chrétien, du croyant. On le sait, l'Église est au centre, et je le dis régulièrement, est au centre de notre vie avec le Seigneur. La Bible dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes membres les uns des autres, chacun pour sa part. Un serviteur authentique ne crée pas sa vie spirituelle seul dans son coin. Mais un serviteur, un disciple du Seigneur, un enfant de Dieu, fait partie d'un peuple et il se donne au peuple de Dieu, au corps. On a besoin des uns des autres. On le sait, l'Église, c'est pas un bâtiment. C'est pas une institution, c'est pas juste une association. C'est pas juste des œuvres de charité, mais c'est un corps fait de relations les uns avec les autres. Un peuple de rachetés, un peuple que Dieu appelle, que Dieu forme, que Dieu sauve, que Dieu rassemble autour de son Fils. Un peuple dont Dieu attend que les uns et les autres se consacrent à ce peuple dans une attitude de service et de sacrifice. On le sait, Paul, il avait un sens aigu de l'Église, hein, on le voit, la manière dont il écrit ses lettres, la manière dont il les aime, la manière dont il leur rappelle l'importance, et la manière toujours de rappeler l'importance de la centralité de Christ. Pour Paul, s'investir dans une Église, c'est important. La protéger, c'est aussi important. Il va écrire dans 1 Corinthiens, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, hein, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit l'Église, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Aux yeux de Dieu, son Église est quelque chose de précieux et d'important. C'est pas juste un projet humanitaire, c'est le lieu où le Saint-Esprit habite, où le nom de Christ est glorifié, où la parole de Dieu est prêchée et obéie. Et c'est vrai, on entend régulièrement, hein, tragiquement, des histoires dans nos églises d'hommes et de femmes qui critiquent, qui sont amers, qui fracturent l'unité, qui divisent le corps, qui abîment quelque part ce que Dieu a construit. Et là, il y a un signal un peu fort, hein, dans Corinthiens. Pourquoi est-ce si fort? Parce que Christ, parce que c'est précieux aux yeux de Dieu. Tu veux t'engager dans l'Église? Tu veux être un serviteur de Dieu? Alors, prends soin de l'Église. Cherche à édifier, cherche à consolider, cherche à encourager, cherche à panser les blessures, à réconcilier. C'est ce que Dieu bâtit. Quelque chose de vivant. Paul dira, prenez garde à l'Église de Jésus-Christ qu'il s'est acquise par son propre sang. Le paiement a été énorme pour l'Église, pour être enfant de Dieu. Quand on mesure cela, on ne peut pas considérer l'Église comme un simple lieu de culte entre deux priorités dans nos agendas, ou comme une option secondaire. Si l'Église a été rachetée par le sang de Christ, alors le servir, servir son Église, c'est l'honneur le plus grand que Dieu puisse nous confier. Paul, il l'a écrit, hein, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Il n'a pas dit « je me suis proposé pour servir l'Église » comme un hobby, mais Dieu m'a confié une charge. Et il y a répondu. Alors bien sûr, je l'évoquais tout à l'heure, hein, on a en tête la conversion de Paul. Elle est, Paul, c'est Paul. Sur ce chemin de Damas, une lumière aveuglante, la voix de Christ, je te veux dans mon équipe. Mais quelque part, Dieu, il n'est peut-être pas intervenu de cette façon-là comme pour Paul, mais il est intervenu dans chacune de nos vies. Je te veux dans mon peuple. Tu es mon enfant, bien-aimé. On n'est pas appelés tous à être pasteurs, anciens, responsables, ou à s'engager dans un ministère spécifique, mais on est appelés à prendre notre place dans ce corps de Christ. Et il y a cet appel intérieur, ce sentiment d'être à notre place. Je ne peux pas être ailleurs qu'ici. Dieu me pousse, Dieu m'encourage dans ce service, même si parfois il y a des souffrances. Et l'Église reconnaît aussi, m'encourage dans ce service, confirme mes dons. Dans 1 Corinthiens, Paul, il va dire un peu la même chose dans les mêmes mots, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des ministères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Il utilise le mot administrateur. Servir fidèlement. On est dans le service les uns des autres. L'apôtre Pierre dira la même chose. On est des bons intendants, des diverses grâces de Dieu. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Un chrétien qui reçoit la grâce de Dieu, qui fait partie de cette famille, qui s'en réjouit et qui enterre ses talents sous terre et disant « j'attends le ciel », ça ne correspond pas à la logique que Paul nous encourage aussi dans ce texte. On est des intendants responsables devant Dieu. Vous pourrez prendre l'image de l'intendant, hein, dans la Bible, c'est une image très riche, notamment dans l'Ancien Testament. Un intendant, c'était un espèce de surveillant, le premier des serviteurs d'une grande propriété. Il n'était pas le propriétaire, mais il représentait cette personne en son absence. Il coordonnait tout ce qui se passait. Les achats, les ventes, les embauches, l'éducation parfois des enfants. Il avait une responsabilité colossale. Et cet intendant savait, s'il faillissait à cette fidélité, il était éjecté. Un serviteur de Christ sert le corps de Christ. Alors on peut se demander, est-ce que je sers? Est-ce que je suis au service du Seigneur dans mon église? Dans l'église, dans le corps de Christ? Est-ce que j'ai cette conscience d'être un intendant fidèle? Ou est-ce que je vis ma foi de façon privée? Oh, l'église peut se débrouiller très bien sans moi. Troisième élément qu'on voit dans ce texte, c'est que ce serviteur est appelé à parler. On voit le contenu de son ministère. Il parle de Christ et de lui seul. Il n'y a pas une technique particulière, il n'y a pas une stratégie, il n'y a pas un catalogue de bons conseils psychologiques, mais le cœur de ce que Paul est en train de dire, c'est Christ qu'on est appelé à annoncer. Et ça commence à partir de la fin du verset 25. Hein. « Conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncez pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations. » Pour vous annoncer pleinement. Paul ne cherche pas à donner une petite dose de parole, mais il cherche à enseigner tout l'enseignement, toute la pensée de Dieu, sans rien taire, sans rien enlever. Et là, on est un peu dans une portion, les versets 26 à 27, on pourrait se dire, ça c'est le boulot du pasteur. Mais ça dépasse le boulot du pasteur, bien évidemment, mais cette semaine, j'étais chez le dentiste et le dentiste m'a demandé, m'a posé la question de la teneur de mon agenda quotidien. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? J'aurais pu répondre ça. Je suis chargé d'annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je ne suis pas sûr qu'il aurait compris grand-chose. On est d'accord. Mais on voit que Paul il dit, je veux vous communiquer toute la pensée de Dieu, rien que ça. Toute l'écriture, toute la parole, dans sa richesse, dans sa cohérence, dans sa puissance. Et vous le savez, dans l'Église, on est convaincu depuis, je pense, une bonne vingtaine d'années, que dimanche après dimanche, on essaye de parcourir un livre ensemble, parce qu'on veut voir l'ensemble. Livre, chapitre par chapitre, c'est un des moyens les plus fidèles pour ne pas passer à côté de l'ensemble dans l'enseignement, qu'on grandisse dans l'ensemble de la vérité. On le fait dans les groupes de maison, je sais que Entre Femmes le fait aussi. On le fait à d'autres endroits. Et il faut se dire que parfois, quand on a un texte dans la série et qu'on doit la préparer, on se dit, ah, c'est vraiment un casse-tête de se dire, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire à nous aujourd'hui? Moi, c'est pas mes préoccupations. Pourtant, Paul a dit à Timothée, toute écriture est inspirée et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli et capable de toutes bonnes œuvres. Paul avait une passion, c'est vrai, communiquer l'ensemble du conseil de Dieu pour qu'au fil du temps, l'Église puisse être enracinée. Et je crois que la meilleure chose qu'on puisse entendre les uns des autres, d'un responsable, d'un ancien, d'une personne qui a une responsabilité d'un enseignement, c'est pas qu'elle vous dise des choses sympathiques, qu'elle vous donne des conseils bien pensants, mais qu'elle vous donne les conseils de Dieu, qu'elle ouvre la parole de Dieu. C'est pour ça que la prédication, elle est essentielle. C'est pourquoi la prédication dans nos vies, entre nous, est essentielle. Parce qu'elles vont sculpter nos pensées, notre mentalité. Elles vont filtrer nos émotions et nos passions. Si on laisse la parole de Dieu nous nourrir avec l'aide du Saint-Esprit, on va penser comme Dieu, on va sentir comme Dieu, on va vivre comme Dieu. Mais si nous n'avons pas la parole de Dieu qui fasse le filtre, notre grille de lecture, alors on va suivre nos ressentis, nos impressions du moment, nos modes de vie, nos modes, nos cultures. On devient des chrétiens à la carte, choisissant ce qui nous plaît. Nous avons besoin d'entendre l'ensemble, pleinement, la parole de Dieu. Après, il dit, il y a tout le contenu. Quel est le contenu? Vous l'avez vu, hein, il y a cette phrase un peu difficile au verset 26 à 27. Il y a un mot qui revient deux fois, c'est le mot mystère. On est appelé à vous partager le mystère révélé de tout temps. Qu'est-ce que c'est un mystère chez Paul? Alors, c'est pas une énigme qui est réservée à une élite. Ni un secret ésotérique quelconque. Mais pour Paul, quand il parle de mystère, il veut dire qu'il y avait un aspect du plan de Dieu qui n'avait pas encore été connu, dont certaines facettes étaient demeurées cachées dans les siècles passés, et que Dieu avait décidé de dévoiler fur et à mesure, en son temps. Dans la vie de tous les jours, il y a des mystères de ce style-là. Quand il y a un grand film qui sort au cinéma, prenez par exemple un James Bond, hein, le mystère demeure de savoir quel sera le scénario ou l'intrigue du film. On sait probablement les acteurs, à un moment donné. On sait un peu certaines scènes en voyant la bande-annonce. Mais on ignore totalement l'ensemble de l'histoire. On ne sait pas le dénouement. C'est un mystère qui sortit. Voilà, jusqu'au moment où il y aura la sortie du film. Puis enfin, en le voyant, on va comprendre tout le film. Et encore, pas toujours. Le mystère sera révélé. Et c'est un peu dans ce sens-là que Paul parle de mystère. Il dit, il veut parler du plan de Dieu. Mais c'est un plan bien plus glorieux qu'un scénario de film, hein. C'est le plan de salut pour tous les hommes de toute éternité. Un plan qui a été dévoilé fur et à mesure, au moment choisi par Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'avait pas laissé l'homme complètement dans le noir. Il a donné des brides, il a annoncé des choses, il a montré des choses, il a donné des ombres. Vous rappelez-vous comment on a regardé le livre des rois? Il a dévoilé certaines facettes que Christ allait accomplir. C'est pas une improvisation. C'est pas comme si à la fin il dit « Ouh, Dieu, il s'est dit, ouh, il n'y a rien qui marche avec les hommes, je vais envoyer Jésus. » Non, le salut, c'était son plan depuis le commencement. Dieu prépare, Dieu promet, Dieu fait attendre. Depuis le départ, il promet un moyen de s'en sortir. Il parle de bénédiction. Et tout au long de l'Ancien Testament, on ressent cette attente, on ressent cette imperfection. Dieu prépare quelque chose, mais on ne saisit pas tout à fait quelque chose. L'ensemble, comment il va pardonner nos péchés, comment celui qui est juste, il peut faire grâce? Mon collègue Benjamin Hagen a utilisé cette image pour expliquer ce mystère. Le plan était là, réel, mais caché comme sous une couverture. Il y a quelque chose qui est caché sous une couverture. On voit quelque chose, on devine un peu la forme, on peut essayer de deviner, mais on ne comprend pas totalement. C'est un peu l'Ancien Testament. Et puis vient la venue avec Christ, hein, qu'on a évoqué dimanche dernier, qu'il s'incarne, qu'il vit sa vie, qu'il meurt sur la croix. Là, le mystère est révélé, la couverture est enlevée. Et tout le monde comprend devrait comprendre en quoi consiste ce plan de salut. Dieu a exécuté son plan. Mais il en fallait après en expliquer le sens. Qu'il comprenne, qu'il explique. Et c'est ce que le travail que fait Paul avec les Colossiens, il explique ce qui vient de se passer. Il dévoile un peu l'ensemble des coulisses. On n'a pas toujours tout compris, même si le film est totalement sorti. Mais Paul a dit aux Colossiens dès le début, vous avez eu le privilège, vous avez compris, vous avez été éclairés par Dieu, vous avez compris le salut. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, on fait partie, on a compris un certain nombre de choses, pas tout. Et Paul dit, ça c'est pour tout le monde. C'est pas un mystère comme les cultes à mystère qu'il y avait d'ailleurs à l'époque aussi de Colosse, ou réservé à une élite. Non, il s'adresse à tous les hommes, pour chacun. Aux non-juifs, aux païens, il est assez accessible. Et il parle de glorieuses richesses du mystère. Christ en vous. Je trouve que c'est extraordinaire la manière dont il... Le Fils unique qu'on a lu dans les versets précédents du Dieu, image parfaite du Dieu, premier-né de toute création, il n'est pas simplement pour nous, comme dit certains chants. Christ n'est pas simplement avec nous. Christ n'est pas simplement à côté de nous. Mais Paul nous dit, il est en nous. Il est en nous. Il vit en nous par son esprit. Il fait de nous sa demeure. Nous sommes unis à lui. Christ habite en nous. Dans notre cœur. Dans notre Église. Par le Saint-Esprit, si on est croyant. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Je pense qu'on doit méditer longtemps pour comprendre tout ce que cela veut dire. Mais Christ en vous, C'est cette présence qui fortifie dans les tentations. Christ en vous, c'est la force qui nous donne de servir quand tout semble perdu. Christ en nous, c'est l'assurance que notre vie n'est pas en vain, mais qu'elle est attachée à ce corps glorieux. Demandons-nous quel est le contenu de ce qu'on dit, de ce qu'on vit avec Dieu en tant que serviteur, de mon témoignage, de mes conversations, de mes messages, dans l'Église mais en dehors. Est-ce que je parle suffisamment de Christ en moi, en vous? Ou est-ce que je me contente de conseils, de structures, de bonnes idées? Ou est-ce que je vous annonce pleinement la personne de Christ? Alors parler sans cesse de Christ, c'est pas juste un slogan, c'est pas juste un exercice. Mais on le voit, et c'est la dernière partie, c'est que Paul souhaite à ce que Christ trouve maturité en nous. Le serviteur travaille avec Christ. Je sais que parmi nous, plusieurs font du ski. Hein. Moi, j'en ai fait 2-3 fois seulement. J'ai aimé, beaucoup aimé. Et je me rappelle clairement la première fois où j'ai fait du ski de piste. D'ailleurs, Ruth aussi, il faut lui demander. On nous a invités, on nous a aidés à louer les skis, on nous a expliqué un peu le matériel, on nous a équipés, on s'est tenu debout sur les skis. T'es un skieur maintenant, officiellement. Puis quelques mètres après, il n'y avait plus personne avec moi. Il y avait une pente, oui. Et puis la remontée mécanique. C'est comme si nos amis qui nous avaient accompagnés, bons skieurs, nous avaient dit « Viens, vas-y, t'es skieur. Moi, je t'attends en bas. On se revoit tout à l'heure. » Ah ! Paul, lui, ne voit pas la mission de cette façon-là. Son objectif, c'est pas de parler de Christ et de vous laisser vous débrouiller. Son objectif, c'est d'accompagner les chrétiens, en particulier ceux qui sont à Colosse, jusqu'à ce qu'ils grandissent en Christ. Verset 28, c'est lui que nous annonçons en avertissant toute personne et en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Là, il y a un mot adulte, on pourrait dire mature ou parfait, suivant certaines traductions. C'est l'idée d'un travail achevé en Jésus-Christ. C'est pas un one-shot, c'est l'idée, voici l'évangile, débrouille-toi. Non, c'est Paul parle d'accompagnement, de suivi, de soins. On avait vu que cette église avait été bâtie notamment par grâce au témoignage d'Épaphras. Et là, Paul et ses compagnons font quelque part du service après-vente. Ils continuent, ils annoncent Christ. Il veut que chacun grandisse en maturité, soit des adultes, que chacun grandisse en maturité en Christ, de chacun. Alors, la maturité, c'est pas une perfection sans morale, une maturité détachée de Christ d'ailleurs, comme le prétendaient d'ailleurs des faux enseignants, mais la maturité qui produit une maturité, un attachement plus fort en Christ, stable dans les tempêtes, profondément enraciné. Rappelez-vous la première image que je vous avais partagée, solide comme un arbre centenaire qui a depuis des dizaines d'années puisé dans le même sol. Il veut faire de nous. Christ veut faire de nous, par le biais de Paul et de bien d'autres, des chaînes. Il ne veut pas faire de nous des citrouilles. Gardez aussi cette image. Il veut qu'on prenne son temps sans racines, des vies transformées. On ne change pas de sol au gré des modes, mais on est enraciné en Christ. Alors c'est vrai, quand on pense chrétien mature, je ne sais pas ce que vous pensez. On peut penser, un chrétien mature, c'est quelqu'un qui arrive à lire sa Bible tous les dimanches. Peut-être se dire c'est un chrétien qui s'habille de telle ou telle façon. Un chrétien mature, c'est quelqu'un qui regarde ou qui ne fait pas telle ou telle chose. Ou au contraire, qui fait telle chose. Et des choses qui peuvent être bonnes. Bien sûr, des choses qu'on peut faire en tant que chrétien. Mais c'est pas ça qui définit la maturité chrétienne. Parce que sinon, on court le même danger que les Colossiens. De définir la maturité avec des choses qui sont en dehors de Christ, qui ne se trouvent pas en Christ. Paul, la maturité, c'est quelqu'un qui est davantage stable en Christ. Un chrétien mûr, c'est celui qui a compris qui est Jésus, enfin, qui a compris qu'est-ce qu'il est appelé à faire, et qui s'attache à Christ dans les hauts et dans les bas. Et la méthode de Paul, annoncer, avertir, instruire toute personne. Bon, avertir, on n'aime pas trop. Il y a l'idée de correction, de réprimande, de mise en garde, de nous prévenir d'un danger. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, être repris. Je crois que personne ne l'aime d'ailleurs. Mais c'est nécessaire parfois pour être corrigé, d'aller dans la bonne direction. Pour avancer, on a besoin d'exhortation. Sinon, on ne sait pas trop où aller. On a besoin de repères, d'instruire. Il y a l'idée d'expliquer solidement. Il y a l'idée de développer notre compréhension, notre foi. On ne reste pas au niveau de débutants curieux. On grandit. Et c'est pour chacun. Toute personne, il y a le tout, hein, plusieurs fois qui est évoqué dans cette dernière partie. Et c'est à cela, le dernier verset, que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à cela que je travaille, nous dit Paul, en combattant. Alors le mot combattre vient du grec agonizai, qui a donné agoniser. Donc l'idée de combattre, c'est le combat d'un athlète, d'un soldat, d'un homme qui met tout son corps, toute son âme dans la bataille. Paul dit, on pourrait dire littéralement, qu'il agonise d'une certaine manière dans son ministère d'apôtre. C'est ardu, c'est laborieux, c'est exigeant. Voilà ce que je fais, je suis engagé à fond, c'est mon travail. Mais la manière qu'il le dit, non pas avec mes forces, mais avec les forces de Christ, celle qui agit puissamment en moi. Il y a beaucoup d'intensité. Mais c'est la force qui a ressuscité Christ qui agit en moi. C'est cette force qui a passé Jésus de la mort à la vie, elle est maintenant en vous et il la met en action par le Saint-Esprit. Et on sait dans la Bible, ça se passe souvent dans des corps qui sont fatigués, épuisés ou emprisonnés comme Paul. Les émotions sont à bout, mais Dieu donne sa force, Dieu renouvelle sa grâce. Et ça, c'est tout le paradoxe de l'évangile, de la bonne nouvelle, c'est que la force de Christ nous donne de pouvoir combattre pour ceux et de vivre pour ce projet. Paul était très clair sur qui il était, sur sa mission, sur sa vision des choses. Et il nous encourage à le vivre de cette même façon, de la même façon. Et je crois que ça devrait être l'objectif de tout serviteur de Dieu. De ne pas nous arrêter. Tant que l'évangile n'a pas été annoncé à tout le monde, tant que chaque croyant n'a pas été invité à grandir dans sa connaissance et sa compréhension des choses. Et c'est ce qui transparaît de tout homme rendu parfait en Christ. C'est pas un but impossible, mais c'est un horizon vers lequel on est appelé à tendre. Alors quelques applications pour terminer. On est appelé à progresser ensemble dans notre attitude de serviteurs les uns des autres. On a quelque chose en commun, Christ, qu'on n'a pas en commun avec d'autres. Qu'on n'a pas peut-être en commun avec des collègues, avec des amis, avec une partie de notre famille. Mais ce qu'on a en commun entre nous, c'est Christ. Et parce qu'on a ça en commun, on devrait nous encourager les uns des autres. À nous aider à grandir en lui, à nous encourager en lui. C'est ce qu'on dit régulièrement, on vous encourage à peut-être trouver un binôme, un groupe de maison, à vivre un temps de réunion de prière, à vivre un accompagnement, une redevabilité, un discipulat. Tout cela suppose d'être prêt à se livrer, à avancer ensemble, de parler de notre foi, de parler de nos hauts, de nos bas. Ça demande de nous écouter les uns des autres, de partager ces choses, de partager nos sujets de prière, de partager ce qui nous a encouragés dans notre découverte, de nos incompréhensions aussi. Dans nos lectures personnelles, de partager nos lectures, une prédication qu'on a entendue, parce que Paul vise cela, à nous encourager, à nous porter les uns les autres, les uns pour les autres. Vous avez à côté de vous des frères et des sœurs, peut-être parfois en souffrance, vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé du counseling biblique, parfois des personnes dans le doute, dans le péché, ou n'importe. Et au sein de l'Église, on est appelé à nous encourager, à être une aide les uns pour les autres. Peut-être parfois un conseiller, à l'aider à progresser. On a chacun à côté de nous des personnes qui sont dans une situation de vie, parfois marquée par la souffrance, les épreuves, le désordre, le doute, etc. Et c'est notre rôle, c'est comme ça que Paul l'a vu, de nous encourager à progresser ensemble. Le but de l'Église, c'est pas juste d'être bien ensemble, mais c'est de progresser ensemble. Je reprends l'image du moniteur de ski. On est un peu tous des moniteurs de ski. Chacun à son niveau. Pour aider certains à progresser, peut-être pour aider à certains à découvrir le ski. Même ceux qui ont fait 40 ans de ski. De vie chrétienne, on ne devrait pas s'arrêter. On est là, utiles les uns pour les autres. Alors, ne soyons pas comme mon ami sur la piste de ski qui m'a abandonné. On est appelé à être pour chacun, à côté les uns des autres pour nous encourager. Un serviteur de Christ souffre pour Christ, et on ne doit pas se voiler la face. On sert le corps fidèle. On est appelé à parler de ce qui, la seule chose qui nous rassemble, de Christ, ce mystère qui est maintenant dévoilé, et on le travaille avec la force que Christ nous donne. Voilà un peu un portrait d'un serviteur authentique de Jésus-Christ.